quand j'ai compris que mon public commençait à être de plus en plus queer, parce que c'était pas le cas au début, parce que j'étais pas forcément ouvertement, enfin c'était pas écrit sur ma tête que j'étais lesbienne et que j'appartenais à ce milieu-là, quoi. Ça s'est construit petit à petit, et j'ai l'impression que ça a quand même aussi suivi, moi, ma construction dans l'affirmation de moi, dans mes textes et dans ma musique. Je suis vraiment honorée en général de voir ces personnes-là et d'avoir cette chance-là, quoi, d'appartenance et de sentir qu'on est proche dans plein d'aspects.
Bonjour à tous, je m'appelle Lucie, bienvenue dans Le Lobby, le podcast queer de Radio Campus Paris. Vous avez entendu parler de la théorie selon laquelle les personnes queer marchent à une allure plus rapide que la moyenne ? Est-ce que c'est parce que de manière générale on sait où on va ? Est-ce que c'est pour fuir les hétéros puants et les risques d'agression ? Est-ce que c'est parce qu'on est des stars qui avons tant à accomplir ? Une chose est sûre, cela a à voir avec les tubes que l'on écoute à fond dans nos casques en se déplaçant. Notre invité du jour fabrique des sons qui appartiennent à mon panthéon des musiques qui font sprinter. Quand je l'écoute en marchant dans la rue, entre les paroles qui évoquent la nostalgie adolescente, la rupture amoureuse et les BPM qui s'affolent, j'ai souvent l'impression d'être le personnage principal d'un film dans une flamboyante course-poursuite. Éloi est notre invité du jour, elle a sorti Blast, un EP de 8 titres. Bonjour Éloi et bienvenue dans Le Lobby.
Salut Le Lobby.
T'es actuellement en pleine promo et t'as commencé la tournée, t'as fait l'Olympia la semaine dernière. Comment ça se passe? Comment tu te sens?
Bah ça va, c'est intense. Là c'est vrai que depuis l'Olympia il y a quand même un step qui est passé. Donc c'était un peu le bout de course, enfin en tout cas le plus important, surtout que faire de la promo en même temps que le live avec une date aussi importante, c'était un gros mélange, un gros cocktail. Voilà, donc il y a eu un moment un peu juste j'avance et je regarde pas trop à côté et juste je suis en, comme tu dis, en marche rapide. Et là, j'ai un peu le temps de revoir derrière ce qui s'est passé et donc ça me fait du bien de voir mes amis aussi, ma famille et tout. Donc ça va, là je suis dans un moment où je suis pas totalement reposée mais je suis bien.
Trop bien, dans un tunnel de joie.
C'est ça, un peu hors du tunnel plutôt.
Trop bien. La première question que j'avais envie de te poser, elle concerne l'univers visuel de ce nouveau projet que je trouve très marquant et qui me semble différent de ce que tu proposais jusqu'alors. Pour nos auditories, sur la pochette, il y a une photo de toi, tu es de dos, torse nu, les cheveux courts, une grosse chaîne autour du cou, les muscles saillants. Sur tes omoplates, on voit un grand tatou slash marque de bronzage avec la lettre B pour Blast et une étoile. Sur les autres photos de ce même EP, c'est beaucoup des plans serrés sur des parties de ton corps, ton poing dans un gant de boxe, ton visage, le nez ensanglanté, tes hanches, ton ventre. J'ai la sensation qu'on entre dans une nouvelle era, celle du corps désirant, du corps sexy, des biceps, de la baston. Qu'est-ce qui t'intéresse dans cet univers visuel ?
Bah, en fait, j'ai eu l'impression quand même d'avoir du mal à me dévoiler sur d'autres projets, enfin, d'être dans un rapport au corps et à la performance du corps plutôt qui soit confortable. En fait, c'est parti surtout de la musique et de la démarche que j'avais dans la musique qui était déjà de pousser un peu des limites que j'avais par rapport au ton, par rapport à ce que je raconte, quelque chose qui s'est un peu débloqué déjà sur Call Me. Et donc qui m'a intéressée juste en termes de recherche musicale. Et tous ces morceaux et cette énergie, elle m'a poussée à vouloir être vraiment très dans la performance de soi, queer, qui met en amplification tous les thèmes qui me concernent, qui me touchent, etc. Et il y avait aussi toute l'idée de l'iconographie très pop où on se met au centre, mais du coup mis dans un cadre hyper... queer, enfin hyper gay. Voilà, et du coup c'est vraiment un espèce de... ça s'est entrechoqué toutes ces réflexions ensemble et je me suis dit que j'avais envie de pousser et que ce soit même parfois pas forcément facile de le faire, mais d'être dans ce rapport un peu combatif avec l'image de soi et comment on se montre et voilà.
Du coup, ces derniers temps, j'ai effectivement l'impression qu'il y a toute une partie de la communauté gwyn et queer qui s'est déterre pour aller à la salle. J'ai tout de suite pensé, quand j'ai vu les visuels de ton projet, au merveilleux film Love Lies Bleeding de Rose Glass,
ouais,
qui est sorti l'an dernier avec Kristen Stewart en tenancière d'une salle de sport pourrie qui tombe folle amoureuse de Cathy O'Brien, qui incarne une bodybuildeuse qui est accro aux stéroïdes et qui est très très sexy. Pourquoi est-ce que c'était important pour toi de parler du corps et de sa puissance, et peut-être d'autant plus de la puissance du corps lesbien, comme on voit dans ce film? Du coup, je sais pas, tu l'as vu ce film?
Bien sûr, je l'ai vu. Et je pense qu'il a infusé. J'en ai parlé récemment dans Queer Gaze, dans une rubrique de trois couleurs. Il y a quand même pas mal de films qui m'ont inspirée, et je suis vraiment entourée de personnes, de personnes queer ou de personnes lesbiennes autour de moi qui me montrent des films et qui sont dans ce milieu-là. Donc je pense que ça a pas mal joué quand même dans l'image, et aussi dans le fait que Love Lies Bleeding, tout est très pop quand même dans les représentations. Il y a un côté très américain aussi que moi j'aime beaucoup. Donc ça évoque assez bien la DA dans laquelle je suis allée. Tu me demandais quoi exactement?
Non, mais ouais, le pourquoi est-ce que c'est important de parler aussi de la puissance des corps et des corps lesbiens?
Parce
que
je trouve que ça existe peu, cette représentation. Elle existe peut-être plus dans le monde gay masculin, mais je trouve que c'est assez niche quand même, bah, pour le grand public ou pour le public un peu mainstream, d'avoir des représentations comme ça. Et moi, j'ai eu l'impression que j'avais quand même un pied un peu dans un plus grand public, quelque chose qui sort aussi de mon milieu à moi. Et j'avais envie que ça existe de façon hyper franche et presque un peu brutale.
Et justement, le personnage que tu as construit à travers cet album, c'est aussi une célébration des corps butch, masque et l'affirmation qui sont tout aussi flamboyants que ceux des high femme et autres queens,
bien sûr,
dont on a souvent l'habitude de voir, où il y a beaucoup de représentations, pour le coup, même dans les milieux queer, avec Drag Race, avec plein d'autres choses. Et quand j'ai vu ton projet, j'ai pensé à Dorian Electra,
ouais,
qui est un artiste de la scène hyper pop,
que
qui questionne beaucoup la notion de virilité, de drag et de flamboyance, ouais, dans des personnages assez masculins, enfin, dans des personnages qui travaillent sur la masculinité. Est-ce que toi, c'est quelque chose auquel tu avais réfléchi, cette idée de manque un peu de représentation flamboyante de personnages plus butch, masque?
En tout cas, j'ai du mal à m'identifier. Surtout, après, bien sûr, dans ma communauté, j'ai des références, mais c'est quand même pas hyper visible, à part, je trouve, parfois dans d'autres pays, ou aux États-Unis ou en Angleterre, où c'est peut-être un peu plus développé, même dans le style de musique que je fais. Mais c'est vrai que je trouve que ça, c'est une absence un peu sur même sur le terrain médiatique, quoi. Et en plus, je trouvais ça très intéressant d'avoir des textes qui parlent aussi de vulnérabilité et de l'incarner avec un personnage très dans la force. Voilà. Je trouvais que c'était un rapport intéressant à creuser, quoi.
C'est quelque chose que t'as justement dit, ce que tu viens de dire là. Tu l'as dit à l'Olympia.
Devant... Je t'en dis, il faut que je bah, parce que c'est hyper clair dans ma tête, et ça s'est clarifié beaucoup quand le projet est arrivé à son terme, que c'était ça le sujet pour moi, parce que parfois on va dans plein de directions, mais c'est un peu dur de mettre des mots dessus. Et du coup, c'était hyper important, surtout à l'Olympia, d'essayer d'expliquer facilement. Et voilà, c'est un peu comme ça que je le vois, en tout cas.
Et c'était un super beau moment, super émouvant aussi. On sentait que toi, ouais, aussi t'étais émue. De dire ça, de dire ce paradoxe qu'on peut être vulnérable tout en performant,
c'est ça,
plein de, ouais, biceps et plein de puissance.
C'est ça, et puis je pense qu'on a ramené mon projet pas mal à de la fragilité et de la vulnérabilité. Et j'avais pas envie de... Déjà que ce soit totalement calqué sur une image qui est créée à l'extérieur de moi. Et j'avais envie de jouer un peu avec les codes, que ce soit aussi un peu playful, quoi. La façon de montrer, de faire lire la musique.
Et on parlait des dragues, des drag queens.
Ouais.
Justement, en première partie, tu as décidé pour ton Olympia d'inviter le Philippe, la reine de France, pour, ouais, notre plus grande joie. Comment est-ce que ça s'est fait, la rencontre? Pourquoi est-ce que tu as décidé de l'inviter sur cette date?
Moi, j'avais fait une date pour... j'avais mixé à une soirée de Simone Thiebaud qui faisait la Parkingston. Et là, c'était une autre soirée où j'ai... En fait, avant Drag Race, j'ai vu le Philippe performer à cette soirée-là, donc avant que je mixe. Et j'avais juste été trop touchée par sa performance j'étais vraiment morte de rire avec ce personnage hyper mondaine sous médicaments et cocaïne, et genre, enfin, juste il y a un truc hyper fun dans la façon dont elle joue, mais à la fois elle aborde des thèmes qui sont importants pour notre communauté en tout cas. Et ensuite, donc on a eu le temps de discuter ensemble. Moi, j'ai découvert que Philippe connaissait mon projet, donc j'étais hyper contente de la découvrir par ce biais-là, quoi, assez naturellement. Puis ensuite, il y a eu Drag Race. Puis ensuite, elle a gagné. Enfin, c'était genre un enchaînement de bonnes nouvelles pour moi, parce que quand on connaît avant une drag queen dans des trucs un peu plus alternatifs, c'est trop bien de et donc en fait on se voyait de temps en temps à des soirées, on a des amis en commun et tout, et du coup c'est venu hyper vite de vouloir lui proposer cet événement là.
C'était super impressionnant ce soir-là à l'Olympia de voir autant de Gwyn et de queer plus globalement dans la salle. C'était hyper, une atmosphère hyper tendre, hyper, hyper joyeuse, hyper playful, trop belle. J'imagine qu'avec les années qui passent et les projets qui s'enchaînent, tu identifies de mieux en mieux les personnes qui composent ton public. Comment est-ce que tu décrirais la relation que tu as avec les personnes qui composent ton public justement ?
En fait, quand j'ai compris que mon public commençait à être de plus en plus queer, parce que c'était pas le cas au début, parce que j'étais pas forcément ouvertement, enfin c'était pas écrit sur ma tête que j'étais lesbienne et que j'appartenais à ce milieu-là, quoi. Ça s'est construit petit à petit et j'ai l'impression que ça a quand même aussi suivi moi ma construction dans l'affirmation de moi dans mes textes et dans ma musique, parce que forcément ce que je faisais il y a 4 ans et ce que je fais aujourd'hui, c'est écrit différemment, ça raconte des choses différentes et il y a aussi un truc de confiance en soi de dévoiler son identité qui est plus grand. Donc je pense que c'est un rapport hyper honnête de personnes qui sont touchées par mes textes, donc c'est une relation forcément très proche, parce que ce que je raconte c'est assez personnel en général. Donc moi il y a une grande reconnaissance de ma part d'être écoutée, quoi, par ces personnes-là, et je pense que ça se ressent que je suis vraiment honorée en général de voir ces personnes-là, et d'avoir cette chance-là, quoi, d'appartenance et de sentir qu'on est proche dans plein d'aspects. Yes.
Et pour la réédition de ton album Dernier Orage, t'as organisé une soirée à la Flèche d'Or,
yes,
qui est un lieu iconique de la communauté LGBTQI et antiraciste, qui est basé dans le 20e à Paris, qui a une programmation super militante, qui fait plein de choses dans le quartier. Pourquoi est-ce que c'était important pour toi de se tourner vers ce type de lieu ? C'est rare, les personnes qui font dans la même année la Flèche d'Or et l'Olympia.
Ouais, c'est vrai. Bah, moi, j'y vais. En fait, je me suis vraiment pas posé la question. C'est juste un endroit où je vais, où mes amis ont l'habitude d'aller. Je trouve qu'il y a une ambiance hyper conviviale en plus, qu'on est très proche des gens qui viennent performer. J'ai vu plein de choses super là-bas. J'ai beaucoup dansé. Et puis, il y a une facilité aussi à travailler avec ces personnes quand on a un projet comme le mien. Donc, ça, c'est juste une rencontre assez évidente. C'est surtout parce que j'y traîne que j'ai voulu le faire là-bas. Voilà. Tout simplement.
trop bien. Et trop intéressant d'avoir cette dualité, quoi, de pouvoir à la fois, ouais, proposer des grandes salles et
mais c'est
et un
deux
public
formats
plus large
hyper et... différents, et les deux ils se valent. Moi j'aimerais bien même à l'avenir avoir la possibilité de faire plus d'événements. Enfin, je trouve que c'est important en dehors des grandes salles d'avoir des moments où juste on est ensemble, quoi, parce que moi j'adore ça, et de pouvoir souvent dans ces scènes là j'ai l'occasion d'inviter des personnes que j'ai envie de voir moi aussi, qui sont proches de moi, donc même juste constituer une line-up avec des artistes queer que j'ai autour de moi qui font soit de la performance, soit même à chaque fois il y a ma guitariste qui fait la MC, enfin il y a plein de choses, on est juste libre de le faire, il y a moins de limites que dans un show comme l'Olympia, quoi, où c'est hyper cadré, hyper... voilà.
Donc on doit s'attendre à peut-être une programmation bientôt.
Ouais, j'aimerais bien, enfin, en tout cas j'aimerais bien même lancer un truc où je fais des soirées régulièrement, je trouverais ça cool d'inviter des artistes qui jouent pas ou que je vois pas beaucoup sur des scènes et tout. Je trouvais ça bien.
Génial. Trop hâte. Pour toi, est-ce que être une artiste queer, ça veut dire quelque chose dans l'acte de fabrication même de la musique, c'est-à-dire les circuits de production, de diffusion? Comment est-ce que tu t'entoures? Comment est-ce que tu choisis les personnes avec qui tu travailles? Est-ce que ça compte?
Bien sûr, ça compte. Bah, je pense que inconsciemment, pendant très longtemps, j'ai bossé vraiment très seule, par peur d'être mal entourée ou d'être avec des personnes qui me feraient que je me valide pas ou que je sens que je fais pas assez bien les choses, etc., qui est quand même quelque chose que j'ai expérimenté bien avant dans la production. Avant, j'étais plus... y a un moment où j'écrivais plus du rap, du hip-hop, des trucs comme ça, et du coup, j'ai été quand même avec des personnes où c'était pas hyper facile de travailler, et avec beaucoup d'hommes cis-hétéros. Même si j'ai toujours plein d'amis qui sont cis-hétéros, c'est pas le problème. Mais voilà, j'ai découvert un peu ce que c'était le monde des producteurs et que c'était dur de dire qu'on est productrice et de pas tout de suite tomber sur un rapport où on me casse comme une interprète et pas comme autrice et compositrice. Donc ça a été quand même, je pense, du coup, un endroit où j'ai eu besoin d'être seule pendant longtemps. Et ensuite, en fait, dès que j'ai commencé, dès que ça s'est un peu développé, très vite, j'ai eu besoin d'être en indé. J'ai eu des expériences où, dès que je me sens un peu appropriée par soit de l'édition, du management, des labels, etc., j'ai tendance à... ça se passe pas bien. Voilà. Mmh. Donc, j'ai un truc où j'ai fait plein de choix pour monter mon label. Je travaille avec Pauline, qui est tout le temps avec moi, qui est aussi ma régisseuse en live, mais... avec qui je travaille dans mon label. Donc j'essaye vraiment d'être dans un truc vraiment écosystème assez indé et fermé, et ça se construit encore. J'aimerais bien que ce soit totalement indépendant le plus vite possible.
Ok.
Voilà.
Ok. Et depuis que je t'écoute, j'ai l'impression que tu alternes entre des sons à écouter très fort dans son casque, blotti dans sa chambre, et des sons à écouter très fort dans un club bondé, plein de transpi et de gens. Et parfois, on peut faire les deux, et c'est ce que je ressens quand j'écoute la tristesse et la musique,
ouais,
qu'on va écouter tout de suite.
1, 2, 3, 4, laisse, y'en a trop, je compte plus le reste. Des histoires qui m'ont fait mal et j'en suis pas sortie indemne. 5, 6, 7, 8, plus que tous tes anniversaires. Si je continue, j'aurai mal, non, je tiendrai pas jusqu'à 17, 18, 19. Et le reste, on en fait quoi? Si ça continue comme ça, si ça continue pareil. Tous les jours, je m'assomme à coup de décharge électrique. Y'a qu'une seule chose qui m'excite, moi, la tristesse et la musique. T'essayes, j'ai déjà tout essayé, j'en ai perdu des sourires, passé des hivers dans les décors, un peu mort. De toute façon, toi t'es plus là, il reste plus grand chose sans toi. La tristesse, c'est la vie.
Et j'ai retrouvé cette sensation avec Blast, avec des textes qui peuvent être très mélancoliques, qui évoquent la tristesse, la colère, l'urgence. C'est toi qui écris tes textes, du coup, t'es autrice. Est-ce qu'il y a des événements personnels, collectifs, qu'on nourrit cette énergie de rage, d'urgence, de colère, de...
Bah, je pense que juste, j'ai grandi avec beaucoup de frustration qui s'est réactualisée dans plein de situations différentes de ma vie, donc... Souvent, j'ai besoin d'un temps un peu avant de raconter des choses. Donc, j'ai quand même une période de ma vie dans laquelle je me nourris beaucoup dans ma musique, qui est un peu l'adolescence, post-adolescence, et dans lequel j'étais hyper frustrée, pas bien, mais en même temps, je sortais énormément, tout allait très vite, je rencontrais plein de personnes, c'était un espèce de chaos un peu ambiant. Et j'ai l'impression que j'en parle d'une façon dans Dernier Orage et d'une autre façon dans Blast. Je pense que c'est juste que je m'en éloigne et que j'ai un rapport qui est peut-être plus apaisé avec. Voilà, donc je pense que je puise dans une période comme ça et que ça continue à résonner, même encore maintenant, avec d'autres situations dans lesquelles je peux être dans la vie de tous les jours. Voilà.
Et sur cet EP, comme sur les précédents, j'ai retrouvé une sensation de cinéma. Il y a des sons comme Mauvais Sang à l'époque ou Metal Kid sur Blast qui me font des impressions de travelling, de course-poursuite filmée, caméra à l'épaule. Je sais que tu avais travaillé sur le clip de Call Me dont avec tu parlais Alexis. Avec Alexis Langlois il y a un petit moment. C'est quoi ton lien au cinéma? Est-ce que tu as des projets, d'autres clips par des réalisateurs, réalisatrices
Bah, en tout cas, j'aime bien dans l'idée de travailler avec des personnes qui font de la réelle de fiction. Je trouve ça intéressant dans le rapport de ne pas être que dans une case de clip, parce que je trouve que ça va plus loin que ça en général. Enfin, que c'est possible de le pousser plus loin. Alexis, ça s'est fait assez naturellement parce qu'on s'était rencontrés pour son film Les Reines du Drame. Du coup, j'ai rencontré par là, j'ai découvert ses courts-métrages, j'ai eu envie de faire un clip. En fait, souvent, c'est quand même des rencontres. Léa Ruggio aussi qui a fait mon clip pour Bien Mériter. J'ai vraiment connu son travail aussi par la fiction. Donc je pense que c'est ce qui me touche en tout cas. Et non, dans l'idée, déjà il y a deux choses, c'est que j'aimerais beaucoup composer pour des films. Enfin, j'aimerais beaucoup faire de la musique à l'image. C'est quelque chose qui m'intéresse depuis très longtemps. Donc je pense que forcément, dans l'autre sens, j'essaye de trouver des personnes qui amènent une image qui vient du cinéma en tout cas. Et ensuite, là, pour certaines idées de clips que j'ai, je me demande si j'ai pas envie d'essayer de réaliser des clips aussi.
Voilà. Okay.
Donc j'y réfléchis.
Génial.
Mais c'est juste, je trouve, il faut quand même prendre son temps. Après, on est là pour se tromper aussi et essayer des trucs. Mais j'ai des idées souvent. Et c'est pour ça, soit je travaille avec des gens qui m'écoutent beaucoup et avec lesquels je peux vraiment participer. C'est ce qui s'est passé avec Alexis. C'est une idée que j'ai écrite et qu'il a réalisée. Léa aussi. Mais je me demande si ce serait pas intéressant d'essayer, en tout cas. Voilà. Notamment pour Metal Kid, j'y réfléchis. Voilà. Newsletter.
Génial. Trop bien.
On verra, ça se trouve, le clip sera nul. Au moins, j'aurais essayé.
Autrice, compositrice, interprète et réalisatrice. Ouais. Bientôt. Trop bien.
Ça serait trop bien. Non, en m'entourant, bien sûr. Enfin, bien sûr. Ça se fait absolument pas seul.
Et tu t'entoures d'autres artistes et notamment du spectacle vivant. Je pense à Aurélien Vieillard qui est chorégraphe et danseur, qui a performé pour certains de tes concerts
ouais.
Et et qui a chorégraphié le clip
Bien Mérité.
De Bien Mérité.
Et qui est dedans en juge.
Exactement.
Voilà.
Comment est-ce que vous vous êtes rencontrés et qu'est-ce qui te plaît lui dans son travail? Il a une façon de danser hyper particulière, hyper ouais, singulière, hyper reconnaissable.
On s'est rencontrés à l'école. En gros, moi j'étais au Beaux-Arts de Paris, j'ai rencontré Mia. Ma guitariste, qui était très amie avec Aurélien, donc c'était un peu le tic-tac, le duo qui était tout le temps ensemble. J'ai aussi rencontré Anaïs, qui est ma copine et qui a fait la création LED. Enfin, en fait, on est quand même un peu un petit groupe de personnes et j'ai eu la chance de les rencontrer là-bas quand mon projet naissait à peine. Donc, il y a eu une relation d'abord amicale, puis qui s'est mise dans le travail. Et c'est vrai qu'Aurélien, il a un truc hyper brutal, mais gracieux, quoi. Dans sa façon de bouger, je trouve que ça correspond vachement à l'énergie que j'essaye de transmettre avec ma musique. Je l'ai beaucoup vu performer à l'école dans des perfs qu'il faisait pour ses diplômes, pour les accrochages, ce qu'on dit, mais parfois il y a de la performance. Et du coup, j'ai suivi il était là et ça m'impressionnait énormément ce qu'il faisait. Donc je pense que ça m'a attirée. Et puis c'est d'abord passé par lui, sa performance dans mes concerts. Et ensuite, moi, j'ai voulu aussi, dans toute cette idée de performance de soi, d'essayer. Enfin, voilà, j'avais envie de me pousser. Et c'était évident que ce soit Aurélien qui accompagne ça. Et il va, je pense, être un personnage un peu clé de mon projet. Enfin, ça développe toujours des idées avec cet entourage que j'ai. Je trouve ça hyper important de remettre des personnes. C'est comme Anaïs qui est dans le clip de Call Me avec moi, qui se bat avec moi et qui est au début du clip de Bien Mérité. Enfin, j'essaye de mettre des petits
personnages, des petits marqueurs qu'on retrouve.
Exactement. Bah, c'est un peu cinématographique aussi cette idée, donc voilà.
Comme dans une série, quoi.
C'est ça.
Et tu mets en scène une partie de ta vie sur les réseaux pour communiquer avec ton public. Et on y voit justement souvent Anaïs, ton amoureuse, avec qui tu travailles d'ailleurs.
Ouais.
Je crois qu'on l'entend sur un de tes sons sur Love Story.
Non, on l'entend pas, juste je parle d'elle en fait. Enfin, okay. En fait, j'ai appelé ça Love Story 98, elle s'appelle Anaïs 98 sur Insta, petit clin d'œil. Seuls les vrais savent.
Et du coup, quand Bien Mérité, qui est une chanson de rupture,
ouais,
est sortie, tu as même dû intervenir pour préciser qu'il ne s'agissait pas de votre relation. Et j'ai trouvé ça hyper, hyper marrant. Est-ce que c'est important pour toi de prendre ces espaces de représentation et de médiatisation en tant qu'artiste lesbienne, quitte à prendre le risque de voir des récits qui se créent sur toi et que tu maîtrises moins?
Bah, c'est un peu spécial, de toute façon, les réseaux sociaux. On oscille toujours entre un récit hyper personnel et la promotion. Enfin, tout ce qui concerne son... tout ce qui est sa profession, en réalité, et le personnel. Donc, c'est un peu... pour moi, c'est un peu intense, les réseaux sociaux. Je sais jamais à quel niveau il faut que je fasse quoi, si j'en dis trop, si j'en dis pas assez. J'essaye de rester le plus naturel possible, mais ça se... forcément, ça va un peu à l'encontre de ce qu'on me demande. Voilà. Donc, c'est sur ce truc d'indépendance dont je te parlais, c'est tout un travail personnel de me détacher de ce qu'on me demande ou ce qu'on me dit être bien de faire pour faire marcher son projet, quoi. Voilà. Donc, avoir des rapports comme ça, parler des personnes proches avec qui je suis, et tout, enfin, je trouve ça plus naturel que de m'enfermer dans un truc où je suis tout le temps en train de jouer le perso Eloi et que. Je suis très sérieuse et tout, alors que je suis absolument pas très sérieuse dans la vie. Donc j'essaye de trouver un équilibre. Équilibre. Ouais, c'est ça.
T'aimes quand ça tire, faut leur faire mal. C'est triste, hein, ta vie, ouais, sans moi, c'est bien mérité. L'amour c'est le prix en dollars. T'as pas payé ta place. Non, non. Pars ou je dégaine le métallique comme les cobayes d'Amérique.
J'ai entendu bien mérité pour la première fois. J'ai pensé au titre Tu dégages de Sexy Sushi.
Je l'adore, c'est un de mes préférés.
C'est aussi une chanson de rupture qui a aussi un rythme effréné et qui prend le parti non pas de la tristesse, non pas de la perdition, mais de la rage et de la revanche. C'est une référence qui te parle. Du coup, est-ce
j'adore cette ref. C'est vraiment une de Sexy Sushi que j'ai le plus écoutée.
Et est-ce que c'est quelque chose à l'avenir dont tu t'aimerais rencontrer cette idole, ce travail?
Bah, je la connais, hein, franchement. Je la connais. déjà, dès que j'ai commencé, elle m'avait envoyé un message, Rebecca Warrior. Donc j'ai failli faire une chute de tension, je pense. Mais je pense qu'en plus, elle suit quand même pas mal de projets. Elle est assez à la page quand même. Elle reste vachement dans le milieu, puis même avec son label, avec Warrior Records, elle est proche d'artistes qui sont jeunes. Donc on se suit, on a été sur des dates ensemble, donc on a eu le temps de discuter, même sur, encore une fois, tous les trucs de choix que je devais faire. Je lui pose beaucoup de questions, parce qu'elle est très indépendante quand même, et elle a fait un peu ce qu'elle voulait, et ça a fonctionné, donc voilà. Mais oui, j'aimerais beaucoup. Elle est très occupée, Rebecca Warrior, parce qu'elle fait tout le temps plein de projets. Donc je pense que c'est vraiment juste un truc de trouver le bon moment. Mais évidemment, ce serait ce serait voilà. J'y avais pensé sur la tristesse et la musique, mais je préférerais faire une vraie collab avec elle que de lui proposer un morceau qui est déjà fait et de juste poser sa voix dessus. Enfin voilà, j'aimerais que ce soit un vrai moment où on peut chercher des choses ensemble. Je te parle.
Cherchons
des choses ensemble.
Éloi, tu poursuis ta tournée avec notamment la saison des festivals cet été. Et on pourra te retrouver donc, le samedi 7 juin à Art Rock à Saint-Brieuc. On pourra aussi te retrouver à Marseille le samedi 14 juin à Mars Attack. Et le 28 juin à Paris au Solidays.
Ouais, j'ai trop hâte, venez. En plus, il y a Compromat, je crois, le même soir que moi. Oh. Ça vaut le coup.
Merci beaucoup, Éloi. Ton EP est disponible sur toutes les plateformes et existe aussi en CD, en vinyle. Toutes les dates de ta tournée sont dans la description du podcast et sur le site de Radio Campus Paris à la page du Lobby. Cet épisode a été présenté par Lucie et réalisé par Colin. Tous nos épisodes sont à retrouver sur les plateformes d'écoute et sur le site de Radio Campus Paris. Pour nous soutenir, suivez-nous sur Insta et n'hésitez pas à mettre des étoiles. À la semaine prochaine. Bisous.
Du sang qui passe sous la tente, je prends de la vitesse. Les doigts qui crament d'impatience, l'odeur du kérosène. J'ai déjà fait les 100 pas sur les plus belles comètes. Le ciel est plus comme avant, et moi je suis plus comme avant, comme avant. Les deux yeux rivés sur ma peine, pour voir d'autres visages qu'elle. Décharge électrique, je te laisse prendre.